Bonjour. La légende, la tradition raconte, et j'aime à croire que ce que je vais vous dire est vrai, parce que je trouve ça génial. La légende raconte que lorsque un général romain rentrait victorieux pour son triomphe dans Rome, vous imaginez la scène, il rentre sur son char, derrière lui il y a tous les esclaves qu'il a fait prisonnier, il y a toutes les denrées, les trésors qu'il ramène à Rome, et il y a tout le peuple romain qui est là pour l'acclamer, eh bien, il se tenait sur le char du général, un esclave, qui avait pour rôle de lui dire « Memento mori », ce qui veut dire « Souviens-toi que tu vas mourir ». Ça a aidé ce général à se rappeler qu'il avait été victorieux, certes, mais que sa vie ne tenait qu'à un fil et qu'il devait rester humble. Cette pensée est également présente dans les Écritures. Et je voudrais vous partager un psaume qui est peut-être le psaume le plus memento mori que nous avons dans les Écritures. C'est un psaume qui a été écrit et c'est le seul que nous avons écrit par Moïse. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles à la page, au psaume 90, et je vais vous en donner la page si vous voulez suivre dans les Bibles qui sont juste devant vous. C'est la page 398. Écrit par Moïse, donc ce psaume, il y a 4000 ans, probablement lorsqu'il était dans le désert pendant la pérennigre. Jamais des mots à plus de 4 syllabes quand on prêche. Dans le voyage, voilà, ce séjour dans le désert imposé au peuple de Dieu, mais suite à la libération de la terre d'Égypte. Et nous allons le voir probablement suite aussi à de multiples péchés qu'il s'est passé, mais nous n'avons pas la circonstance précise. Je vais lire simplement. Je vais couper la lecture en deux et les explications. Je vais lire simplement les 11 premiers versets. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, « Fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme une journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? J'arrête ici la lecture. Moïse pose une question, et ces 11 premiers versets posent cette question qui conclut le passage que nous avons vu. Pourquoi Moïse craint-il tellement la colère de Dieu? Eh bien, parce que le peuple a oublié sa condition devant Dieu et qu'il vit sans craindre la colère de Dieu. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? La réponse est sous-entendue dans la question « Personne ». Et c'est bien cela qui est grave aux yeux de Moïse. et pour nous interpeller, pour nous faire prendre conscience de la folie d'oublier qui nous sommes devant Dieu, Moïse, dans cette poésie, enseigne quelque chose de tellement lourd, de tellement dense. Il fait un contraste merveilleux entre, d'un côté, l'éternité de Dieu et, de l'autre, la brièveté de notre vie. Et je voudrais donc, dans cette première partie, simplement m'attarder sur cette éternité qu'il y a de Dieu et après le contraste avec notre brièveté. Dieu, dans les Écritures, et il serait bien trop long de citer tous les textes et de faire toute cette démonstration Bible en main, mais Dieu, dans les Écritures, nous est présenté comme étant un Dieu qui se révèle totalement indépendant de toute chose. Il est le fondement lui-même de son existence. Il est incréé et il est infini. Il existe de toute éternité. Son infinité lui confère une perfection infinie, absolue. Pensez à l'infinité, souvent on en pense comme quelque chose de l'étendue, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi l'intensité. L'intensité de son amour, l'intensité de sa sainteté sont infinies. Dieu est infiniment pur, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas le devenir plus. Mais Dieu est aussi infini dans le sens de qu'il est illimité. Tout ce qu'il est illimité. Sa connaissance est sans fin. Sa puissance est sans fin. Sa bonté se manifeste également sans fin. Et donc l'infinité de Dieu, qui est un de ses attributs, de ce qui est fait que Dieu est Dieu, par rapport au temps, s'appelle son éternité. En général, quand nous pensons à l'éternité de Dieu, nous nous rappelons qu'il existe depuis l'éternité passée, ça nous donne mal à la tête déjà, et pour l'éternité future. Et nous pensons à l'éternité de Dieu ainsi. Et c'est juste, mais son éternité est quelque chose d'encore plus insondable et qui nous pousse encore plus à l'émerveillement que cela. C'est pour ça que Moïse tente de nous faire comprendre avec nos mots. Moïse dit, « Avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. De l'éternité en éternité, tu es Dieu. » Notre vie est composée d'un passé, d'un présent et d'un futur. Mais cette division-là n'existe pas en Dieu. Parce que lui, il est l'éternel. Il est celui qui s'est révélé à Moïse comme étant le « je suis ». Je suis éternel. C'est moi qui suis l'éternel. Moïse affirme un peu plus loin, au verset 4, que 1000 ans sont à ses yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Imaginez qu'on invente un compteur qui se mettrait à compter les années et les siècles, non les siècles, partons sur les siècles. À partir d'aujourd'hui, nous créons un compteur qui se met à compter pour l'éternité, qui ne s'arrêtera jamais. Il compte à rebours les siècles passés. Il passe à toute vitesse. Les siècles passent 10, 20, 30, 50, 1000, 1 million, 1 milliard de siècles. Et il continue comme ça à compter pour l'éternité. Un chiffre qu'on ne pourrait même pas lire, qu'on ne pourrait jamais mettre dans aucun livre, dans aucun ordinateur ne pourrait contenir assez de mémoire pour mettre ce livre, ce nombre-là, puisque les années seraient iraient à l'infini. Eh bien, Moïse nous fait comprendre que pour Dieu, ça passe inaperçu. Parce que Dieu est au-delà du temps. Il n'est pas simplement avant le temps en tant que créateur, mais il transcende, il dépasse cette notion-là. Dieu a créé le temps pour la création et pour nous. Il existe avant la création du temps. Même dire avant la création du temps, finalement, c'est un non-sens. On se casse la tête en essayant de songer à ça. Mais Moïse veut nous faire comprendre qui est ce Dieu éternel. Par contraste, à qui nous sommes. La perception du temps vue par Dieu est celle que nous expérimentons. L'éternel est le Seigneur du temps qu'il a créé. Mais pour l'homme, le temps est une limite, une contrainte, quelque chose dans lequel il est enfermé, dont il est esclave, contre lequel il ne peut rien faire. Mais je me disais juste en montant là que quand même, le temps parfois pour nous aussi change. Je me souviens quand j'étais au collège, en cours d'histoire géo, il n'y pouvait pas avoir 2 heures de cours, c'est pas possible. Ça dure au moins 1 siècle, je pense. Mais Moïse ici multiplie des métaphores pour souligner la brièveté et la fragilité de notre vie. L'homme finit en poussière, dit-il. Il est semblable à un rêve. Vous connaissez ce sentiment, quand nous nous réveillons, nous avons fait un rêve, et nous, alors que nous essayons à peine de nous le remémorer, déjà tous les détails s'en vont, et chut, il a disparu. C'est quelque chose d'immatériel, c'est un soupir, dit Moïse, ou une fleur qui est coupée. Et au verset 10, il devient plus concret, la durée de notre vie s'élève à 70, ou pour les plus robustes, à 80 ans. Mais le temps passe vite, et nous nous envolons. Cette condition de la vie humaine n'est pas son état par défaut, n'est pas son état originel. Dieu ne nous a pas créés avec une date de péremption où nous étions programmés à mourir à 70 ou 80 ans. Moïse rappelle ici d'où vient cette mort. Il dit « Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis « Fils d'Adam, retournez à la terre. » Moïse est l'auteur également de la Genèse et il emploie beaucoup de mots là qu'il utilise dans la Genèse pour nous rappeler que notre condition est liée à un jugement de Dieu contre nous. Nous mourrons, non pas de cause naturelle, mais à cause d'une cause qui est théologique, à cause de notre relation qui est brisée avec Dieu à cause de notre péché. Et ce psaume nous rappelle avec force également que non seulement nous allons mourir, mais que dans cette vie sous le soleil, eh bien, la vie n'est que vanité. La vie est dure, la vie est courte et la vie est frustrante. Cette condition humaine devrait, Moïse nous suggère ceci entre les lignes, nous pousser à la crainte de Dieu et à rechercher à dépendre de lui et à placer notre espoir et notre confiance en lui, comme le peuple l'avait fait par le passé. Et c'est comme ça qu'il commence son psaume. Tu as été pour nous, de génération en génération, un refuge. Malheureusement, c'est tout à fait le contraire. Et ça montre la folie du péché qui est en nous et là, sa puissance d'aveuglement. Au lieu de nous pousser à dépendre de Dieu, eh bien, nous vivons comme si Dieu n'était pas en colère et comme si Dieu voulait bien s'accommoder du mal que nous faisons et de l'injustice. Mais Dieu ne tolère pas le mal parce qu'il est Dieu, parce que sa pureté, sa sainteté sont infinies. Tolérer le mal serait un symptôme dramatique qui serait Dieu, une manifestation dramatique, un Dieu qui composerait avec le mal, qui chercherait le compromis. Mais non, Dieu nous juge selon ses normes éternelles et pures. Nous vivons, à l'époque, des chaînes d'infos en continu et des réseaux sociaux qui nous relatent en instantané l'état de notre monde. Et il suffit pour perdre le moral de se mettre 10 minutes devant BFM TV ou une autre chaîne comme ça. Et à longueur du jour, nous entendons parler de drame, nous entendons parler de mal, nous entendons parler d'injustice dans ce monde. Et encore, nous ne voyons pas tout. Pour nous, c'est pareil. Dans nos propres vies, en ce qui nous concerne, nos proches nous voient vivre et ils voient le mal que nous faisons. Mais ils ne voient pas tout. Loin de là, loin de là. Sur la terre, beaucoup de péchés sont cachés, mais du ciel, Moïse dit, tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Le Dieu infiniment saint, infiniment pur, a devant lui et place devant lui l'ensemble de toute nos fautes et de tous nos péchés, pas simplement de nos actions, mais toutes nos pensées d'adultère, toutes nos critiques, toute notre méchanceté que nous n'osons même pas exprimer, mais que nous manifestons bien devant lui par nos pensées. Rien ne l'échappe, mais tout le met en colère. Et c'est une réaction, la colère de Dieu, une réaction appropriée et juste face à la gravité et la laideur du péché. Voici ce que nous rappelle Moïse. La vie de tout homme est très courte et un jour, il fera face à un Dieu qui est en colère. La mort même est le rappel universel que nous sommes tous déjà jugés par Dieu et qu'un jour nous serons présents devant lui. Mais le peuple oublie ce jugement, et c'est ce qui désole Moïse. Nous vivons comme si nous n'avions pas à mourir et comme si Dieu n'était pas en colère. Nous faisons de cette vie comme si elle était tout et nous en faisons n'importe quoi. Nous nous évertuons à combler au final nos vies par tout plein de choses, tout ce que nous trouvons sous notre main, mais pour au final demeurer frustré et demeurer sous sa colère. Et finalement, tout péché est la conséquence de cette arrogance de l'homme qui vit en oubliant qui est Dieu, qui est l'Éternel, et en oubliant la réaction de Dieu juste face à son péché. Alors comment répondre? Comment sortir de cette ornière? Comment changer notre vision de nous-mêmes? Et comment retrouver la relation que Dieu attend? Eh bien, Moïse le dit dans les versets suivants. Il va plaider pour son peuple. Il va demander des choses à Dieu. Et je lis maintenant les versets 12 à 17. Moïse dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et que ta splendeur pour tes enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. » Moïse, ici, dans cette merveilleuse plaidoirie, dans cette merveilleuse requête, égrène plusieurs demandes à Dieu et je les regroupe en trois que je voudrais voir avec nous. La première, réclamer la grâce de Dieu. La deuxième, apprendre à compter nos jours. Et la troisième, rechercher quotidiennement sa présence. La première, réclamer la grâce de Dieu. La Bible a un enseignement qui est contre-intuitif pour notre nature pécheresse, parce que nous ne comprenons pas assez bien qui est Dieu. Et heureusement que Dieu se révèle dans les Écritures pour nous montrer qui il est et ce qu'il attend. Le Dieu qui est en colère contre notre péché se présente comme désirant être lui-même le refuge de sa colère. Dieu nous appelle à crier à lui pour être protégés de sa colère. Et nous devons intégrer, alors que nous pensons que si nous devions nous adresser à Dieu, ce serait simplement au nom d'un mérite ou d'abord changer pour ensuite oser lui demander quelque chose. Mais nous ne pouvons rien lui demander sur la base de notre mérite. Nous lui demandons sur la base de sa bonté. Le péché que nous traînons dans notre vie et dont nous souffrons nous pousse, quand nous en prenons conscience, à la tristesse. Et c'est sain, mais une tristesse qui doit nous pousser à la repentance, à un changement, à désirer ce changement et l'appeler à Dieu. Mais je constate dans ma vie que trop souvent, la tristesse me pousse simplement à une forme d'introspection malsaine, égocentrique. Je suis dans un monologue interne avec moi-même où je me rappelle de ma faute, je m'apitoie sur moi et je suis dans une forme d'auto-flagellation mentale en me disant « mais je suis mauvais de toute façon, Dieu, et je suis trop centré sur moi, mais pas assez sur le Dieu qui se révèle à moi. » Le péché doit produire la peine, je le rappelle, mais une peine qui nous pousse à aller, à ne pas s'arrêter là, mais à aller au-delà. Et le problème, c'est que nous nous arrêtons souvent là, parce que nous n'avons pas compris que Dieu nous demande de lui réclamer le changement que nous ne pouvons pas produire, de plaider, de lui dire « Seigneur, interviens pour moi, tu vois mes fautes, tu vois mon péché, change-moi ». Mon problème est que je ne comprends pas assez bien la grâce de Dieu, malgré ma lecture de la parole, ma méditation, et je dois toujours, toujours avoir ce défi-là de laisser la grâce de Dieu se révéler à moi par les Écritures telle qu'elle est et l'accepter avec foi, d'en faire l'expérience. Tant que nous comprenons ce qu'est la grâce, mais que nous ne l'approprions pas, eh bien, nous restons dans notre état. Et par rapport à Moïse, par rapport à cette intercession, et déjà Moïse a une foi immense, il sait que Dieu va être bon. Nous, nous vivons de l'autre côté de la croix. Nous avons l'ensemble de la révélation et nous savons que Christ est mort et ressuscité. Moïse espérait déjà en la bonté de Dieu, cette bonté que Dieu allait accorder au nom du Messie qui allait venir. Et Moïse disait, qui reconnaît la force de la colère de Dieu? Qui reconnaît cette intensité de cette colère? Qui? Personne. Et jusqu'à Jésus-Christ, tous les hommes en ont été épargnés. Mais lui, il l'a subi à notre place. Qui a connu l'intensité de la colère? Christ, sur la croix, disait « Moi, je sais ce que c'est ». Et Christ a subi cette colère pour que nous puissions dire à Dieu « Je suis pécheur, mais à cause de Christ, je suis pardonné à la croix ». Paul l'énonce merveilleusement. Il dit en Romains au chapitre 5, verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. » Nous sommes réconciliés avec Dieu par l'œuvre de Christ à la croix. Et nous devons réclamer à Dieu, quand nous avons reconnu notre péché, nous approcher de lui avec foi pour dire « Merci Dieu, je me repens et je veux changer parce que je sais que je suis pardonné à la croix. » Dieu est fidèle envers lui-même et il honore l'œuvre de son Fils à la croix. Et il est fidèle envers nous et nous permet de bénéficier de ce pardon. Et en tant que chrétiens, nous savons que nous devons nous approprier chaque jour cette croix-là. Et si vous n'êtes pas chrétien, cette œuvre à la croix est pour vous aussi. Et vous ne devez pas vous en priver, mais vous approcher à Dieu, parce que nous savons que quiconque reconnaît sa condition devant Dieu, reconnaît son péché et demande à Dieu d'en être pardonné et place sa foi en Jésus pour être sauvé et met en lui sa confiance et se place sous son autorité, est sauvé et peut dire « Je suis pardonné à la croix ». Deuxième commandement que nous avons dans ce texte, apprendre Aviv, memento mori. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nos cœurs parviennent à la sagesse, dit-il au verset 12. Selon Moïse, nous devons nous rappeler que nous allons mourir. Nous devons nous dire à nous-mêmes, memento mori, apprends à compter tes jours. Nous vivons dans une société qui ne veut plus penser à la mort. Matthew McCullough a écrit un livre qui va bientôt être traduit, qui s'appelle « Remember Death », souviens-toi de la mort, souviens-toi que tu vas mourir, memento mori. Et il dresse ce portrait-là de notre société qui a complètement rejeté la mort et qui finalement montre une mort qui est toujours artificielle dans les films, dans les séries, etc., mais qui est toujours, qui n'est jamais naturelle. On ne voit pas dans les films des gens mourir de vieillesse, de mort normale, longue et pénible. C'est toujours des choses extrêmes, hors du commun. Mais finalement, dans la vie, dans le quotidien, il n'y a plus la mort. Nous ne voyons plus les cimetières, les gens se font incinérer, la mort est mise à côté. Et il rappelle que pendant des siècles, les gens allaient à l'église chaque matin pour se placer devant Dieu. Et en allant à l'église, ils passaient devant les cimetières. Et ils se rappelaient, bientôt je serai parmi eux. Il y a une église à Mainz, Jean Canistraro m'a montré une photo hier, où sur le côté de l'église, c'est écrit sur une horloge solaire, « Songez à la dernière heure ». Et ensuite, il y a le calendrier. Et dit comme ça, dans une société qui rejette Dieu, effectivement, penser à la mort, c'est morbide. Et nous voyons bien que dans notre société du spectacle, de l'amusement, nous faisons tout pour ne pas y penser. Mais penser à la mort nous aide à vivre avec sagesse. Penser à la mort, compter nos jours, nous fait reconnaître qui nous sommes afin de ne pas faire comme s'il n'y avait que cette vie qui compte. Nous rappelle également et nous encourage à nourrir notre espérance en Dieu, à bien compter nos jours, à placer notre espérance en Dieu et à vivre sous son regard et ne pas gâcher notre vie. Mais racheter le temps. Dit autrement, nous devons comprendre notre vie en prenant sa fin comme point de départ. Pour moins nous préoccuper des choses de ce monde, mais vivre à l'aune de l'éternité qui nous attend. Nous rappeler que tout confort et réconfort que nous pouvons avoir ici-bas, et il y a des choses qui nous apportent un réconfort. Bien sûr, un réel réconfort, mais qui est toujours périssable. Pour remettre de l'ordre dans nos priorités et nos valeurs, afin de vivre en sachant et en nous rappelant que tout vient de Dieu, que tout lui appartient, que notre temps lui appartient, que nos vies lui appartiennent. De quoi voulons-nous être fiers sur nos lits de mort ? De quoi voulez-vous être fier sur vos lits de mort ? Imaginez-vous que vous ayez le temps de ressonger à votre vie. Que voudriez-vous avoir dans vos souvenirs ? Je pense que la plupart d'entre nous ici, chrétiens, nous dirions avoir vécu pour Dieu, l'avoir glorifié, l'avoir aimé, avoir aimé mon prochain de tout mon cœur, l'avoir servi, avoir eu une vie qui ait réellement du sens. Pourquoi alors, nous-mêmes qui disons ça, passons tout notre temps sur les réseaux sociaux ou à regarder sur YouTube des vidéos de chats, de blagues, des choses qui sont tellement superficielles, tout notre temps sur nos smartphones? Pourquoi nous évertuons-nous comme s'il n'y avait rien d'autre à tout placer dans notre réussite sociale, matérielle, statutaire? Pourquoi élevons-nous nos enfants comme si finalement leur bonheur et leur sécurité ne dépendaient que des biens matériels ? Pourquoi cette dichotomie, ce décalage ? Eh bien, parce que je crois que nous ne comptons pas assez nos jours. Et la parole de Dieu nous invite à compter nos jours, pour ne pas nous laisser tromper par les convoitises trompeuses de notre époque, de notre vie, qui font la guerre et qui se battent pour avoir la première place et occuper toutes nos pensées. Et vous avez probablement, comme moi, à l'esprit ces paroles de l'apôtre Paul qui disait aux Philippiens au chapitre 3, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul vivait son présent en prenant la fin comme point de départ. Apprendre à compter nos jours est le point de départ, je le dis, mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore bien plus important. Regardez ce merveilleux texte, ce que dit Moïse. « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Cet désir de se confier dans la bonté de Dieu avec cette assurance d'être dans la joie. Et c'est le troisième commandement. Moïse nous enseigne une chose essentielle. Dieu veut nous rassasier quotidiennement de sa présence. Il désire remplir nos pensées au quotidien et nous rappeler que nous avons besoin de lui en permanence. Et il y a un corollaire avec ça. Nous ne pouvons pas ne plus penser à Dieu sans que des vagues de tentations viennent, sans que nous oublions quelle est notre condition et tendions vers une autonomie qui nous pousse toujours plus loin de Dieu. Dans un de ses plus fameux livres, et pour moi l'un des meilleurs, C.S. Lewis, un célèbre auteur, écrit ce livre s'appelle « La tactique du diable ». Dans ce livre, Moïse relate, il se met en scène dans la peau d'un démon qui est un vétéran qui écrit des instructions à un jeune démon novice. Et il lui écrit des lettres pour le conseiller sur comment tenter un jeune chrétien et le détourner de Dieu. Ce procédé littéraire est très ingénieux. Franchement, je vous recommande ce livre. Et il nous permet de nous placer comme des observateurs un petit peu du camp ennemi. Et une de ces lettres, donc Screwtape, le démon vétéran, dit à ce jeune démon ceci. Écoutez bien. Les hommes vivent dans le temps, mais notre ennemi, Dieu, les destine à vivre dans l'éternité. Je pense que c'est la raison pour laquelle il veut qu'ils tiennent toujours compte de deux choses. De l'éternité et de ce laps de temps qu'ils appellent le présent. C'est seulement dans le moment présent que les hommes font l'expérience qui ressemble à celle que fait notre ennemi, Dieu, de la réalité de sa totalité. C'est pourquoi l'ennemi, Dieu, voudrait les voir constamment préoccupés ou de l'éternité, ce qui revient à dire qu'il s'inquiète de lui, ou du moment présent, en train de méditer soit sur leur union éternelle avec lui, soit sur leur séparation éternelle d'avec lui, ou alors en train d'obéir à ce que leur conscience leur dicte aujourd'hui, de porter leur croix aujourd'hui, de voir la grâce pour aujourd'hui et de le remercier pour les joies d'aujourd'hui. Merveilleux. Moïse dit « Rassasie-nous chaque matin ». Dieu n'a pas conçu notre relation avec lui comme étant une relation à distance ou à réserve. On passe un temps avec Dieu et nous sommes rechargés après et nous pouvons le mettre de côté et quand les réserves sont finies, eh ben on referait le plein comme si on était une machine. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes créés à son image et Dieu veut une relation quotidienne. Ma relation avec lui aujourd'hui ne me nourrit pas pour demain. Dieu ne le veut pas comme ça. Dieu veut que je cultive une dépendance quotidienne avec lui. Et tout ce que j'ai appris de lui, découvert de lui dans le passé, certes m'est utile, mais ne me prive pas pour autant de ce besoin. L'été est une période propice. Nous avons plus de temps Et souvent, je sais que les anciens de toutes les églises se posent la même question. Avec les activités de l'église, la crainte est que les brebis, le peuple de Dieu, dans les vacances, notamment les jeunes, les familles, les personnes plus fragiles, eh bien, se retrouvent à se compromettre. Et c'est une réalité, cette peur ne vient pas de nulle part. Mais si nous faisions de l'été, là où nous avons plus de temps, où toutes les activités se calment, une période favorable, propice à rechercher de nouveau, à nous nourrir chaque matin de la présence de Dieu. Et Dieu nous a donné sa parole et la prière comme des moyens de grâce pour que nous passions du temps avec lui. Et je crois que nous avons tant de mal avec cela, et c'est un combat, pour moi le premier, quotidiennement, pour deux raisons, entre autres, il y en a plein, mais deux raisons que je voudrais souligner. La première, c'est que nous ouvrons la parole de Dieu, la Bible, avec des ambitions bien trop faibles. La méditation de la Bible n'est pas juste un devoir, comme une finalité, n'est pas juste une pratique religieuse, mais un moyen de grâce que Dieu utilise pour se révéler à nous. Nous ne lisons pas la Bible pour connaître plus de choses sur Dieu, mais pour le connaître, lui, intimement, personnellement, pour être rassasié, comme le dit Moïse, de lui. Mais nous avons de la peine, moi le premier, parce que nous n'avons pas comme objectif, avant tout, de chercher à être émerveillé par ce Dieu qui veut se révéler. Et quand nous ouvrons sa parole, nous devons lui réclamer, plaider pour dire « Seigneur, que ton esprit m'assiste et illumine-moi, mets en lumière qui tu es, nourris-moi de toi afin que je sois rempli pour aujourd'hui et que demain je recommence encore. » L'autre raison que je voudrais évoquer, c'est que nous avons une compréhension de la bonté de Dieu qui est limitée. Et on voit comme Moïse demande à Dieu une joie pour toujours, demande à Dieu de révéler son activité dans son peuple, de faire grâce, de jour en jour réjouir le peuple de Dieu. Et nous pensons peut-être que Dieu a été tellement patient avec nous qu'il n'a plus de bonté à déverser et qu'il se lasse de la manifester. Mais nous devons demander à Dieu sa bonté. C'est comme ça que nous le glorifions, et c'est comme ça qu'il désire se révéler à nous comme le Dieu qui est infiniment bon envers ceux qui ne le méritent pas. Et nous devons lui quémander, mendier cette grâce, cette bonté-là à Dieu, le réclamer comme Moïse d'être rassasié chaque matin de cette bonté, et que alors nous fassions une expérience d'explosion de grâce qui va nous pousser encore plus loin dans notre amour pour lui, encore plus loin dans notre désir de le servir et de servir les autres et de nous détourner de nos péchés, de mauvaises habitudes pour vivre pour lui en comptant nos jours. Je voudrais résumer maintenant tout ce que j'ai dit et aller vers la conclusion. Moïse nous rappelle que c'est notre arrogance qui nous pousse à vivre comme si nos péchés finalement n'étaient pas si graves. Nous ne le mettez pas réellement en colère. Et je me souviens d'un excellent livre, un autre de Jerry Bridges, qui est intitulé « Pas si grave ». Et il rappelle comment nous avons des péchés qui sont, que nous reconnaissons comme étant inacceptables, mais d'autres comme tout à fait acceptables. La moquerie, la médisance, les petits mensonges, l'incrédulité, c'est pas très grave. Voilà. Et il nous rappelle comment c'est grave et l'impact qu'ils ont. L'autre chose que nous rappelle Moïse, c'est que l'Éternel veut que nous prenions la mesure de sa colère contre le péché et de ce que cela lui a coûté pour nous faire grâce. Et que nous ayons, au nom de cette grâce manifestée en Jésus-Christ, l'assurance que si nous lui réclamons le pardon, le changement qu'il veut produire en nous, eh bien lui-même le produira et qu'il va nous apprendre à compter nos jours et à rechercher sa présence quotidienne. Et je voudrais maintenant conclure avec ces quelques lignes de David Matisse que j'ai lues il y a peu de temps. Il dit ceci à propos de la grâce. La grâce, elle est trop extraordinaire pour nous laisser amoureux de l'iniquité, du mal. Elle est trop libre pour nous laisser esclaves du péché. Trop indomptable pour laisser nos convoitises nous assujettir. La puissance de la grâce est trop généreuse pour ne pas nous libérer afin que nous puissions vivre le bonheur de la vraie sainteté. La grâce est trop puissante pour nous laisser passifs, trop efficace pour nous laisser nous vautrer dans la boue de notre péché et de nos faiblesses. Ma grâce te suffit, annonce Jésus, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est la grâce de Dieu qui nous donne accès aux moyens de la grâce, c'est-à-dire la lecture de la parole, la prière, le culte, pour nous permettre de persévérer, de grandir et nous réjouir de ce côté-ci de la nouvelle création à venir. Et la grâce de Dieu inspire et donne toute leur force aux différentes habitudes et pratiques par lesquelles nous profitons des moyens que Dieu met à notre disposition pour la déverser. Amen.